Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Même ou Face. Il y a quelque temps, un polémiste d'extrême droite affirmait à la télévision, avec un aplomb et une vulgarité insondables, que nos concitoyens, qui ne portaient pas un prénom français, n'étaient pas tout à fait français. Plus de 100 ans après la fin de la Grande Guerre, je me demande ce qu'en penserait outre-tombe mon arrière-grand-père, Larbi Bouzide, grièvement blessé à la bataille de Verdun, et qui vécut le même enfer que les valeureux protagonistes du beau livre de Maurice Genevoix, ceux de 14. On le voit, le prénom reste plus que jamais un enjeu social, identitaire, culturel. Nous verrons quels sont les critères de choix d'un prénom dans les années 2010, pourquoi cela reste une affaire ultra sensible dans les familles, qu'est-ce qui fait qu'un prénom passe de mode ou devienne ultra tendance, quelle est l'influence d'un prénom dans notre vie. Trois experts, Anne-Laure Cellier, Baptiste Coulmont et Claire Tabarly-Perrin. Mon complice aujourd'hui, le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Bonjour à nos invités, Anne-Laure Cellier, professeure associée à HEC Paris. Vous avez publié en 2018 Le pouvoir des prénoms. Baptiste Coulmont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à Paris 8. Vous êtes l'auteur de Sociologie des prénoms à la découverte. Claire Tabarly-Perrin, vous êtes la co-auteure de l'indispensable officiel des prénoms, l'édition 2019 chez First. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la question du prénom passionne autant Baptiste Coulmont.
Elle passionne parce qu'il n'y a plus de règles. Autant dans les siècles passés c'était très simple, hein, le parrain donnait son prénom à son filleul ou la marraine à sa filleule. Aujourd'hui il n'y a plus de règles, donc il y a une angoisse parentale de choisir le bon prénom. Et c'est d'autant plus important que le prénom est un marqueur social et que c'est un signe pour les parents de distinction. Et donc il est très important de ne pas se tromper.
Claire Tabarly-Perrin, pourquoi le prénom c'est un domaine de recherche qui vous captive autant?
Parce que le prénom, vu comme ça, peut paraître finalement un sujet assez simple, assez anecdotique. Et en fait, il a une véritable profondeur d'évocation. Et une profondeur d'évocation parce que finalement, il se rapporte à l'individualité. C'est-à-dire que quand le nom se rapporte à la lignée, le prénom, c'est l'individu. Et donc, dans notre société où l'individu est roi, on ne peut pas s'étonner que le prénom suscite tant d'engouement.
Anne-Laure Cellier.
Le prénom, c'est une étiquette sociale, c'est la première étiquette sociale de l'individu hein, que les parents vont lui donner, donc c'est un petit peu bizarre, c'est paradoxal, c'est à la fois l'individu mais c'est pas lui qui le choisit, et c'est l'acte de donner un prénom reste un acte d'une violence inouïe et qu'on oublie souvent, hein. C'est effectivement, comme dit Claire, quasiment banalisé aujourd'hui.
Alors j'aimerais qu'on esquisse une brève histoire de l'évolution des pratiques d'attribution des prénoms de 1900 à nos jours. Claire Tabarly-Perrin, depuis que la loi s'est assouplie en 1993, le répertoire des prénoms s'est considérablement élargi.
Absolument. Donc le maître mot, c'est la libéralisation. Donc c'est un petit peu ce que Baptiste Coulmont expliquait. Il y a eu une libéralisation dans le choix des prénoms. Les prénoms, les parents autrefois ne choisissaient pas le prénom, mais il y a une libéralisation dans la législation. Puisque, en fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, les prénoms étaient régis par la loi du 11 germinal en 11. Et comme son nom l'indique, l'état civil, c'était un peu le cadastre du prénom. Hein. Donc les parents, ils devaient choisir dans des calendriers préétablis. Et puis après, il y a eu un petit assouplissement en 1966, où on a autorisé les prénoms régionaux, quelques diminutifs, quelques variantes. Et puis alors, 1993, là, on a ouvert les vannes. Donc c'est une loi qui a dit qu'on pouvait choisir n'importe quel prénom à partir du moment où il n'était pas préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. Donc là, explosion du répertoire, qui avait commencé avant. Hein, en 1900, 1700 prénoms permettaient de nommer tous les Français. Aujourd'hui, il faut 35 000 prénoms pour nommer tous les Français. Et depuis 1993, il y a eu une augmentation du répertoire de 30%. Donc 30% de prénoms en plus en 25 ans.
Baptiste Coulmont, on assiste donc à une véritable diversité qui reflète notre société à travers le prénom.
Ben ça, c'est une trace d'émigration passée et présente, mais c'est aussi parce que le prénom il est de plus en plus utilisé, donc il faut qu'il puisse individualiser beaucoup plus qu'avant. Avant on n'appelait pas les gens par son prénom. Au début du XXe siècle, vous auriez été Monsieur Rebbi partout. Maintenant vous êtes Ali Rebbi partout.
Alors on assiste depuis ces 25 dernières années au poids grandissant des prénoms rares, Baptiste Coulmont, les oui. Prénoms rares sont de plus en plus fréquents.
Oui, alors c'est très souvent une petite variation orthographique, un H par ici, un Y au lieu d'un I par là, mais c'est aussi pour les parents la nécessité de que les enfants soient bien identifiés par le prénom quand le prénom est utilisé dans toutes les dans la vie courante, hein, quand il y a trois ou quatre Cédric parmi vos collègues, ben c'est aujourd'hui un petit peu compliqué, puisqu'on doit les appeler par le nom de famille. Or, on n'appelle plus les gens par leur nom de famille. Si on vous appelle le matin « Salut Rébi », c'est sous une forme humoristique. Mmh. Et ce n'est pas la forme naturelle. Donc, le prénom doit être beaucoup plus rare pour mieux identifier.
C'était le cas au moment du service militaire. On s'appelait par le patronyme. Claire Tabarly Perrin.
Oui, sur la définition du prénom rare, c'est vraiment impressionnant puisque donc avec ma co-auteure, on a recensé il y a à peu près la moitié des prénoms français qui sont portés par moins de 50 personnes. Et dans l'officiel des prénoms, il y a 2000 prénoms qui sont portés par moins de 30 personnes.
Écoutons le polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour, qui s'exprime au début de l'extrait, il s'exprime sur le cas de Rachida Dati.
C'est vrai qu'elle a dû appeler sa fille Zora.
Oui, Zora.
En quoi ça vous gêne ?
En quoi ça me gêne ?
Oui.
Moi, ça me gêne pas. C'est simplement qu'elle est ministre de la République française, elle est censée être française. Et que normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens.
Bon, enfin bon. Alors, je m'appelle Abfet, moi.
Eh ben, votre mère a eu tort.
Ah bon ? Ma mère a
eu tort.
Elle a eu tort ? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien ?
Absolument.
Non, mais vous rendez...
C'est exactement ce que je veux. C'est exactement
vous voudriez donc que je m'appelle comment ?
Corinne. Ça vous irait très bien.
Vous trouvez que Corinne, ça serait pas mal ?
Ça serait parfait.
Ce type est incroyable.
Le polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour, qui s'exprimait dans l'émission Les Terriens du samedi sur C8. Que vous inspirent ces propos qui peuvent humilier certains de nos concitoyens ? Claire Tabarly Perrin.
Mais que peut dire aujourd'hui, que peut répondre à Éric Zemmour un Kevin, par exemple. Si vous prenez le cas de Kevin, il y en a 165 000 en France, c'est-à-dire autant que de Lucas. Donc c'est un prénom irlandais qui est devenu vraiment très français. Si on commence à s'intéresser à la définition de ce qu'est un prénom français, on s'aperçoit que les origines sont vraiment extrêmement diversifiés. Hein. Vous avez des prénoms grecs comme Zoé, des prénoms germaniques comme Charles-Édouard, des prénoms latins, Camille, Victor. Voilà, donc on est vraiment sur un élargissement du répertoire.
Thibaut de Saint-Maurice.
Non, rappelez à Éric Zemmour qui porte un prénom d'envahisseur viking, arrivé au 9e siècle, notamment en Normandie, et qui prenait un malin plaisir à piller abbayes, églises et tout ce qui faisait le patrimoine français, d'après ce monsieur Zemmour, puisqu'il y a une équivalence entre cette France éternelle, chrétienne, etc. Donc c'est un peu compliqué quand on s'appelle Éric, quoi.
Baptiste Coulmont.
En fait, quand l'Algérie était un département français, les Algériens qui étaient français avaient tout à fait le droit d'appeler leurs enfants Mohamed ou Zora. Donc la lecture du droit par Éric Zemmour est totalement farfelue.
Alors c'est lié.
Je pense qu'on parlait tout à l'heure des nouveaux prénoms. Il y a aussi des prénoms qui sont créés de toutes pièces. Donc il y a un espèce d'extrémisme maintenant hein, dans le don du prénom. Et donc la réaction d'Éric Zemmour, il me semble, est surtout un mouvement de pendule dans l'autre sens qui vise à uniformiser et à rendre conforme l'ensemble des prénoms.
Et en 2016, le même polémiste affirmait sur le même plateau qu'en France, il ne faut pas appeler son fils Mohamed, il faut des prénoms français. Oui. Comme le rappelle justement le journal Le Monde, la loi du 11 germinal de l'an 11 que vous citiez, Claire Tabarly Perrin, eh bien cette loi ne parle pas de saints du calendrier, mais des différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Baptiste Coulmont.
Oui, des différents calendriers, et la Cour de cassation, je pense, dans les années 80, disait qu'il n'y a pas de contrôle à faire sur les calendriers. Vous pouvez venir avec votre calendrier, les personnages antiques, mais aussi le calendrier révolutionnaire. Tous les petits endives, poireaux, etc., qui ont, ou liberté, qui avaient été nommés au moment de la Révolution. Mais aussi, je tiens à rappeler le fait que, Zemmour est un fervent défenseur de la France coloniale, mais il ne connaît pas le droit. Le fait que les Algériens, quand ils étaient français, avaient tout à fait le droit de donner, en tant que français, des prénoms du registre musulman.
Claire Tabarly-Perlin, dans votre officiel des prénoms, on retrouve des prénoms de toutes origines, on retrouve sur la même page Brice, Branislav, Brahim ou Boubacar, ou pour les prénoms féminins, Loubna, Louane, Louise ou Lotus.
Oui, absolument, parce que c'est effectivement le prénom est indiscriminant, ça c'est évident. Je pense que toutes les études, je suis pas là pour en parler parce que j'ai des experts autour de moi bien mieux placés, mais les études montrent qu'effectivement le prénom peut inviter à la discrimination. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les parents ont spontanément trouvé la parade en choisissant en fait des prénoms multiculturels. Si vous regardez dans le top 20 ou le top 50, vous avez des Mila hein, qui sont vraiment entendus dans les pays hispanophones, lusophones, germanophones, francophones. Enfin, donc vraiment, c'est le quintet total. Vous avez un prénom, donc on parlait tout à l'heure des prénoms irlandais, Liam. Mais vous avez aussi côté garçon, les parents prennent souvent, choisissent souvent des prénoms multiculturels. Culturelles qui ont des résonances dans les trois religions monothéistes. Donc ça va être Adam, Noé, Éden. Donc les parents ont spontanément trouvé en fait une parade en abolissant les frontières et les discriminations.
Alors c'est lié.
Et il y a des données qui montrent que à religion égale, effectivement, on discrimine beaucoup moins un Adam qu'un Mohamed. Parce que oui, la discrimination, elle est soutenue par les données, si vous voulez, mais ça ne signifie pas qu'il faille rentrer dans un cadastre chrétien et suivre les prénoms des saints.
Voilà, cadeau de Noël.
Merci.
Grand bien vous fasse.
Je dis cadeau de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom.
Oui, c'est ce que j'avais compris.
Oui.
Sur France Inter.
On s'intéresse aujourd'hui au prénom avec trois experts, Anne-Laure Cellier, Baptiste Coulmont et Claire Tabarly-Perrin. Bonjour Jordan.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission Jordan, vous habitez Blois. Et votre prénom n'a rien à voir avec le célèbre basketteur Michael Jordan. Est-ce que vous avez souffert de ce prénom à consonance masculine ?
Oui, un petit peu. Surtout à l'adolescence et à l'école primaire notamment, où les enfants ne sont pas très tendres entre eux. Donc mon surnom quasi officiel, c'était Michael Jordan, parce que le basketteur était très connu à ce moment-là, et j'en ai un petit peu souffert.
Pourquoi vos parents ont-ils choisi ce prénom ?
Tout simplement parce que c'était un prénom qu'ils adoraient, enfin qu'ils adorent toujours d'ailleurs. Ça leur paraissait un peu original et en même temps c'était une consonance qu'ils appréciaient particulièrement. Donc voilà, alors j'ai détesté mon prénom pendant longtemps, aujourd'hui je l'adore, je trouve qu'il correspond très bien à ma personnalité.
Alors c'est quoi votre personnalité qui correspond à votre prénom d'ailleurs?
J'essaye d'être un petit peu originale en fait par rapport à ça, et après c'est un peu compliqué, mais disons que... oui, c'est une façon de se détacher, enfin de se différencier des autres, en fait.
Anne-Laure Cellier.
Oui, là, on entend très bien qu'un prénom, il faut se l'approprier. Hein. On se met vraiment à son diapason. C'est quelque chose, c'est comme une paire de chaussures, finalement. Le seul problème, c'est qu'on ne l'a pas choisi, encore une fois. Donc, on la met. Et puis, enfant, ça peut être difficile de marcher avec. Dans le cas ici, il s'agit de quelqu'un qui a fini par s'en accommoder et est à l'aise dedans. Mais comme on le voit, Baptiste Coulmont pourra en parler davantage, certaines personnes n'arrivent jamais à se mettre à la hauteur de leur prénom et éprouvent le besoin d'en changer.
Baptiste Coulmont.
Oui, il y avait environ 3000 personnes qui changeaient de prénom en faisant une démarche judiciaire jusqu'en 2017. Maintenant, c'est beaucoup plus libre. Hein. Il suffit d'aller à la mairie et puis de demander un changement de prénom. Des cas qui étaient jugés suffisamment importants par les personnes pour aller défendre leurs revendications auprès de la justice. Parce que bien sûr, dans la plupart de la vie courante, on va utiliser un surnom ou son deuxième prénom si jamais on ne l'apprécie pas.
Jordan, est-ce que vous avez eu envie de changer de prénom à un moment dans votre vie ?
Oui, adolescente, j'aurais tout fait pour changer de prénom. Alors aujourd'hui, non.
Vous nous avez dit hors antenne que vous avez subi, là, récemment, une remarque cinglante à Pôle emploi.
Oui, lorsque j'ai été diplômée, donc j'ai déposé un dossier chez Pôle emploi, et la personne qui recevait pour vérifier les dossiers est passée dans la salle d'attente et appelle Monsieur Jordan. Donc je me lève et je dis bah, c'est mademoiselle, et la personne me regarde de haut en bas et elle me dit non mais quelle idée de s'appeler comme ça quand on est une fille, non mais c'est pas possible ça. Et en fait, tout le long du trajet pour aller à son bureau, elle a grommelé que des choses comme ça, quoi. C'est n'importe quoi.
Bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir appelé Jordan. Baptiste Coulmont, le prénom, c'est le support idéal hein, pour les moqueries et les plaisanteries douteuses. Hein.
Oui. Et alors on s'en souvient quand on est enfant, après ça disparaît un peu, mais en effet quand on interroge, il y a quelques enquêtes qui ont interrogé les gens, les gens font moins état d'une discrimination quand on leur demande, mais plutôt l'état de moquerie et c'est beaucoup plus important à l'adolescence qu'à l'âge adulte.
Moi, on m'appelait Alibaba quand j'étais petit, mais ça m'a jamais traumatisé, je dois bien le dire.
Non, les gens ne sont pas nécessairement traumatisés, mais ils se rappellent des moqueries sur leur prénom.
Anne-Laure Cellier.
Alors, si je peux me permettre, moi, j'ai des contacts différents, étant à HEC Paris, j'ai beaucoup d'hommes et de femmes de commerce qui me font part de situations à tous les niveaux, dans toutes les industries, où on leur a demandé de changer de prénom dans le cadre de leur travail. Donc, même adulte, ça peut peser très très loin.
Claire Tabarly-Perrin.
Et ce que la dame de Pôle emploi ne devait pas savoir, c'est que les prénoms peuvent changer de sexe. Hein, donc on connaît le cas de Camille, qui est un cas classique, mais il y a Eden, qui était d'abord masculin, qui en 2000 était à 80% féminin, et qui aujourd'hui a à nouveau une part masculine qui augmente.
Tiens, elle a vu de la lumière dans le studio, elle s'est dit, tiens, bah, je vais venir dans Grand-Mère vous fasse. Guillemette Odissino.
Le sujet me concerne.
Bonjour, bah oui, mais parce que vous appelez Guillemette.
Et
alors,
oui.
Est-ce que ça a été dur à porter, ce prénom, honnêtement?
Honnêtement, je n'en ai pas souvenir. Quelques petites moqueries, mais dans la toute petite enfance, parce que ça rime avec gommette, et on en colle beaucoup à la maternelle. donc ce genre de choses. Évidemment, le célébrissime entre guillemettes, à la place de entre guillemets, qui m'a beaucoup suivi lors de mes études. Mais après, aucune violence. En revanche, beaucoup de gens encore aujourd'hui peuvent prendre mon prénom pour mon nom de famille. Donc dès que je rentre dans un taxi ou dans un chauffeur privé, bonjour Madame Guillemette, mais ils pensent que c'est mon patronyme. Bon, en même temps, mon patronyme étant Odissino, je vois pas très bien. Alors là, un prénom Odissino, c'est spécial, mais non, j'en ai pas souffert et je voyais bien que c'était un peu différent. On me demandait toujours, mais d'où ça vient? En fait, c'est ça. Le truc, c'est que ça attise la curiosité.
C'est pas mal ça.
Oui, oui. Et quand votre prénom est rare, je pense que ça vous force un peu, et je me demande si nos parents, ces petits coquins, ne le font pas exprès, ça vous force un peu à vous comporter de manière un peu différente, ou à répondre, mais sans agressivité, oui, mon prénom, il est différent, moi aussi, je le suis.
Guillemette, vous restez avec nous.
Mais moi, ça me passionne, ce sujet.
On s'intéresse aujourd'hui au prénom avec trois experts, Anne-Laure Cellier, Baptiste Coulmont et Claire Tabarly-Perrin. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier.
Hey, Johnny Jane, tu te souviens du film de Gainsbourg? Je t'aime, moi non plus, un joli thème. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Hey, Johnny Jane, les décharges publiques sont les Atlantides que survolent les mouches quand t'arrives. Hey, Johnny Jane, tous les camions viennent t'y déverser bien des peines infanticides. Hey, Johnny Jane, tu balades tes cheveux courts, ton teint livide, à la recherche de ton amour suicide. Hey, Johnny Jane, du souvenir veux-tu trancher la carotide à coups de pied dans les conserves vides. Oh, Johnny Jane, le beau camion à peine te transporter de bonheur en bonheur sous les cieux limpides. Hey, Johnny Jane, ne fais pas l'enfant, ne sois pas si stupide, regarde les choses en face, sois lucide. Hey, Johnny Jane, efface tout ça, recommence liquide de ta mémoire ces brefs instants torrides. Hey, Johnny Jane, un autre camion à peine viendra te prendre pour t'emmener vers d'autres Florides. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Hey, Johnny Jane, écrase d'un poing rageur ton œil humide. Le temps rouge, l'amour comme l'acide.
Jane Birkin interprétait la ballade de Johnny Jane.
Je t'emmerde. J'appelle mon fils comme je veux.
Grand bien vous fasse.
J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollon et Myrtille.
Stop. Sur France Inter.
On s'intéresse aujourd'hui aux prénoms avec trois experts, Anne-Laure Cellier, Baptiste Coulmont et Claire Tabarly-Perrin.
Moi, en réalité, mon vrai prénom, c'est Guy. Guy. T'es un Guy, quoi. Guy. Mes parents, ils ont aucune excuse. Je veux dire, c'est long, une grossesse, quoi. T'as le temps de voir venir, c'est pas un accident de bagnole, quand même. Choisir un prénom, c'est pas un réflexe, quoi. T'es pas là, Guy. Pardon, ça arrivait tellement vite. Non, tu t'appelles Guy, tu n'es pas un enfant de l'amour, c'est pas possible. Tu es un enfant de la vengeance. Je veux dire, Guy, socialement, pour démarrer dans la vie, c'est l'équivalent d'un bec de lièvre, quoi. Je sais pas si vous comprenez. T'es mal parti, quoi.
L'humoriste Guillermo Guise. Claire Tabarly-Perrin, je rappelle que vous êtes la co-auteure de l'officiel des prénoms. Le prénom Guy, il est très donné en 2018.
Ah non. Non. Ça, c'est bon. Ça peut être un pari, hein. Ouais. On peut appeler sa fille Nicole et son fils Guy en imaginant qu'il sera à la mode dans 20 ans. Parce que bon, il y a ce phénomène cyclique, hein, dans les prénoms.
Ça peut revenir, Guy?
Ah oui. Bah oui, ça reviendra. Il y a un phénomène de cycle qui est lié à tout ce qui est lié à la mode. Alors les cycles s'accélèrent, hein, c'est un phénomène général. C'est-à-dire que Marie et Jean étaient les prénoms phares du... Alors pour Jean du Moyen-Âge jusqu'à 1960, pour Marie du 15e siècle jusqu'à 1960. Maintenant, des prénoms comme Léo et Léa, qui étaient des prénoms stars, ils ont une durée de vie 10 ans, 15 ans.
Quels sont les prénoms masculins et féminins les plus donnés en 2018? Le top 3 des garçons et des filles.
Top 3 pour les garçons, c'est Gabriel, Louis et Raphaël. Et pour les filles, c'est Emma, Louise et Jade.
Alors, comment les parents choisissent-ils les prénoms de leurs enfants, Baptiste Coulmont? Quels sont les éléments déterminants dans le processus du choix? Je rappelle que vous êtes sociologue.
Alors, c'est assez compliqué. S'il fallait dire une seule chose, c'est que les parents signalent leur position sociale quand ils choisissent un prénom, mais c'est pas comme ça qu'ils le disent. Ils vont dire, on a choisi un prénom qu'on aimait. Et alors, Kevin, vous dites, non, jamais Kevin. Donc, on s'aperçoit quand on creuse derrière l'idée du goût que, en fait, c'est la position sociale qui, à mon avis, est centrale.
Comment se diffuse un prénom, Claire Tabarly-Perrin? Comment ça se diffuse? Pourquoi, par exemple, Gabriel, Raphaël et Louis sont les prénoms les plus donnés en 2018?
Alors là, on arrive sur les prénoms, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, sur les... Alors, il y a les sonorités. Ça, c'est les sonorités, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que les sonorités, c'est signe de modernité. Donc, vous avez eu la période des Hêtes, Georgette, Yvette, la période des IE, Claudie.
Des guillemets.
Moi, non, moi, oui, j'étais hors des Hêtes, en plus. C'était déjà ringard, les Hêtes, à mon époque, alors.
C'est-à-dire qu'on a commencé par féminiser les prénoms épicènes en mettant des Hêtes, puis après, c'est devenu I, E, In, Claudine, et puis maintenant, c'est A. Donc, on est dans la sonorité des A. Donc, l'idée pour les parents, c'est effectivement de se démarquer de leurs propres parents. Donc Charlotte et Nicolas, qui ont des prénoms longs, auront des enfants qui s'appelleront Léa, Chloé, voilà.
Rappelez ce qu'est un prénom épicène.
Un prénom épicène, c'est un prénom qui se prononce de la même façon, donc c'est Dominique, Claude, que ce soit masculin ou féminin.
Anne-Laure Cellier, il existe des jeux de distinction et d'imitation entre classes sociales à propos du prénom?
De distinction et d'imitation? Ouais. Oui, alors certainement, ça c'est plus dans le domaine de la sociologie que ça va jouer. En psychologie sociale et cognitive, qui est le domaine duquel mon livre va parler, c'est davantage au-delà du facteur sociologique. Qu'est-ce qu'un prénom en quoi le prénom peut-il influencer la personne? Et ce qu'on trouve, c'est que ça va jusqu'à tatouer votre visage. Donc ça, c'est une recherche qui est sortie il y a un an et demi, et sur laquelle j'ai dû longuement parler dans le livre, parce que beaucoup de gens étaient surpris, et notamment beaucoup de sociologues ont réagi en disant, mais est-ce que ça dépasse vraiment le facteur social? Et oui, c'est-à-dire que même des jumeaux identiques, on les prend, on est capable de deviner qui porte quel prénom, parce que ça se voit dans leur visage.
On y reviendra tout à l'heure sur cette étude de Anne-Laure Cellier. Sur les jeux d'imitation et de distinction, Baptiste Coulmont, du prénom.
Oui. Alors, il y a des jeux de distinction très forts. Les prénoms rares, aujourd'hui, quand ils sont pris par un groupe social, ont du mal à franchir les frontières de ce groupe. Donc, les choix de l'aristocratie parisienne ne franchissent pas les frontières du périphérique.
Par exemple, dans les milieux populaires, on retrouve très rarement des Combes, des Adélaïdes, Amaury, Constant.
Oui. Oui, tout simplement, oui. On ne les voit pas. Et en revanche, on va les voir dans les lycées du 7e arrondissement, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais il y a aussi des jeux d'imitation. Et si on prend les 20 prénoms les plus donnés aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont d'abord commencé à être donnés il y a 20 ou 30 ans dans les professions des arts et du spectacle, puis chez les professeurs et les cadres, puis les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers, etc. Donc, on voit vraiment à la fois ces jeux d'imitation, mais aussi l'émergence de frontières sociales marquées très fort avec les prénoms.
Bonjour Fanette.
Bonjour.
Bienvenue, d'où appelez-vous Fanette ?
J'appelle de Bayonne.
Vous êtes ma première Fanette.
Ah, je suis la première Fanette de beaucoup de monde, sachez-le.
Et je crois savoir que votre mari s'appelle Aloïs.
Oui, voilà. On a choisi, en fait c'est comme ça qu'on s'est choisi, on s'est dit il nous faut un conjoint avec un prénom original, donc il a épousé une Fanette et j'ai épousé un Aloïs.
Alors j'imagine le prénom de vos enfants.
Et ben justement, la question s'est posée il y a 4 mois, puisqu'il y a 4 mois j'ai donné naissance à une petite fille, et pendant que j'étais enceinte d'ailleurs, c'était un sujet assez récurrent, les gens se posaient la question, ils disaient une Fanette, un Aloïs, ça va forcément donner un prénom original. Et c'était une vraie question pour nous, on savait pas trop, pour être honnête, au tout début, on se disait plutôt, est-ce qu'on va pas plutôt donner un prénom classique, justement, on a des prénoms tellement originaux, pas qu'on en ait souffert, mais malgré tout, on fait forcément remarquer quand on s'appelle Fanette et Aloïs, et on se demandait si on avait envie de
subir ça. Alors elle s'appelle comment votre petite fille ?
Eh bien, elle s'appelle Salomé. On a tranché pour ça parce que c'est à la fois un prénom rare, mais pas si original que ça. On ne se dit pas, tiens, est-ce que Salomé, c'est un prénom, comme on peut se poser la question pour Fanette, puisque très souvent, on me demande si c'est mon surnom. Donc voilà, c'est une petite Salomé, finalement.
Mais vous ne vouliez pas lui faire porter le poids de l'originalité, c'est ça ?
Non, on n'avait pas envie de ça. Bon, encore une fois, pas qu'on en ait souffert. Moi, mon prénom, ça a été un peu mon porte-étendard. Je crois que ça a vraiment forgé mon caractère parce que j'ai eu beaucoup de moqueries. En même temps, il y a une belle histoire derrière.
Réaction autour de la table. Très beau témoignage de Fanette.
Oui, Norcellier. Absolument. Mais ce qui ne tue pas renforce, oui, effectivement.
Bruno, Baptiste Coulmont.
J'ai pas de
Et vous, Claire Tabarly-Perrin,
elle a prononcé le mot, il y a une belle histoire derrière. Ouais. En fait, c'est ça, un prénom sera facile à porter s'il est aimé, et donc au début, aimé par les parents. Il y a des parents qui choisissent des prénoms qui sont pour eux une évidence, parce qu'ils les aiment, et qui ne sont pas forcément, qui sont des prénoms extrêmement rares. Hein. Donc, vous choisissez Solal, parce que Belle du Seigneur, c'est votre livre de chevet.
Guillemette Audicino.
Bah non, mais je me sens tellement, ce Fanette est ma sœur. Et moi, j'ai appelé ma fille Fanette. Ouais. Et donc on n'est pas très très loin. J'ai pas osé le Fanette, mais c'est vrai. Et en tous les cas, sur les gens qu'on admire aussi, je sais pas si Salomé, il y a quelque chose de l'héroïne aussi. Et on a aussi choisi souvent les prénoms de nos filles pour des héroïnes de littérature ou pour des actrices ou pour des. Il y a le retour de Simone comme prénom, mais c'est à cause de grâce à Simone Signoret.
Mais c'est en fait un prénom, c'est une passation du parent vers l'enfant. Donc l'enfant doit s'approprier le. Jusqu'au délire des parents, parfois. Ce qu'on oublie, c'est que c'est aussi une passation des parents à autrui. Et c'est la partie que je trouve pêche aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'enfant, il va devoir aller dans la cour de récré et justifier de son prénom dans certains cas.
Anne-Sophie, par courriel, elle nous dit d'ailleurs que son prénom est classique et qu'il est devenu vieillot, nous dit « Nous entrons dans une mode et une compétition du qui mieux, Prudence, Olympe, Lothaire, Gersandre, Montfort, tous dans la même famille, l'originalité a ses limites. » Baptiste Coulmont, sur la course à l'originalité des prénoms.
C'est aussi le fait qu'on utilise le prénom aujourd'hui dans la vie courante. Et donc, les noms de famille sont très variés en France. Très, très, très variés. Mais on ne dit pas quelle course à l'originalité pour les noms de famille. Vous prenez 1000 personnes, il y a très peu de chances qu'il y ait 2 personnes qui ont le même nom de famille, sauf peut-être de Lefebvre. Mais parce qu'on utilise les noms de famille, ils doivent identifier. Les prénoms aujourd'hui ont pris ce rôle, ils doivent identifier. C'est pas que les parents cherchent à être originaux, ils veulent juste que leur enfant, qu'il n'y ait pas 3 Cédric dans la même classe. Parce que les 3 Cédric, ils seront tout le temps ensemble. D'où Prudence et Gersandre, qui ont de grandes chances d'être relativement uniques.
Alors, il n'y aura pas 3 Cédric dans la même classe, puisque si vous prenez les 2 premiers prénoms, donc Emma, par exemple, c'est une fille sur 70. Hein, donc, il y aura peut-être 3 Emma dans la cour de récréation.
Bonjour Anne-Marie, vous appelez du Pays Basque, bienvenue.
Bonjour, exactement, j'appelle du Pays Basque. Voilà, je voulais parler de l'originalité des prénoms de mes petites filles que j'adore.
Alors, dites-nous.
Voilà, alors c'est Haïsé, je vous les donne en basque, Luma et Ainhoa.
D'accord. Et voilà. Pourquoi ce choix de prénom basque ?
Parce que c'est très tendance. Enfin non, et puis c'était en soi aussi, mais c'est très tendance. Et c'est vrai que, mais bon, AIC et tout ça, il y a au moins une vingtaine d'années que ça se donne. Hein. Mm-hmm. Voilà, que les filles portent ce prénom AIC, qui veut dire vent.
Alors, voilà, le vent. Anne-Marie, voilà. Vous êtes basque, oui. Et votre génération n'a eu que des prénoms très classiques, c'est ça?
Ah, très classique. Voilà, je suis née en 55 et donc mon frère aîné s'appelle Jean-Paul, personnellement Marie, mon frère Auguste, Marie-Jeanne, Laurent, je vous les appelle tous, et Bernard. Voilà.
Et dans les jeunes générations, il y a une réappropriation identitaire, entre guillemets, des prénoms basques?
Mes enfants, je les ai appelés tout ce qu'il y a de plus classique, Muriel et Julien. Et maintenant, voilà la tendance. Mon fils donc a appelé ses deux filles Aïssé et Aïnoa, qui est le nom d'une vierge, voilà, qui veut dire Marie. Et ma fille a appelé sa fille Luma, qui s'écrit L-U-M-A, qui veut dire plume.
C'est
et donc
plume
je m'amuse
aussi.
Avec ses prénoms, puisque je dis attention, le vent va se fâcher contre la plume va s'envoler. Voilà, enfin bon, voilà tout un jeu de mots qui permet. Mais je crois qu'on est en train de revenir aussi. C'est très relié à l'environnement, à la terre, tous ces prénoms, enfin voilà. Je crois qu'on retrouve des racines quelque part qu'on avait un peu perdues, voilà.
Merci beaucoup Anne-Marie pour votre appel. Baptiste Coulmont.
Je vous en prie,
merci.
Bonne journée, merci pour vos émissions, merci.
Merci.
Et alors, c'est des choses qu'on a vues aussi en Bretagne, qu'on voit au Pays Basque. C'est à mesure que le marqueur fort de l'identité, à savoir la pratique de la langue locale, disparaît, bien il y a un marqueur gratuit de l'appartenance identitaire qui est tout simple, qui passe par le prénom. Mais il y a d'autres régions de France où on ne verrait pas ça parce que les dialectes restent encore beaucoup plus forts.
Claire Tabarly-Perrin.
Oui, les prénoms régionaux, c'est un formidable terrain de jeu pour être dans le patrimoine et trouver de l'originalité.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Grand bien vous fasse.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom.
À lire et BI.
Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste?
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.
Sur France Inter.
Je m'adresse à notre professeur de philosophie maison, Thibaut de Saint-Maurice. Quelle réflexion vous inspire ce sujet des prénoms?
En plus de nos prénoms, il se trouve que nous nous donnons aussi des surnoms, Ali, ou des diminutifs, comme si le prénom lui-même ne suffisait pas toujours à exprimer l'identité, ou comme si l'identité du prénom, malgré la liberté dont on vient de parler, elle était quand même tout de même un peu trop sage, un peu trop générale, et puis finalement peut-être pas suffisamment précise. Alors, on connaît tous par exemple des Geneviève qu'on appelle Ginette, des André qui deviennent des Dédé, des Jean-Baptiste qui passeront leur vie à se faire appeler JB, et puis... Comme la créativité aussi en cette matière est infinie, mon petit frère Pascal, par exemple, on le surnomme chat. J'ai connu une Françoise que tout le monde appelait Framboise, ou un élève l'année dernière que tous ses amis appelaient Boule, alors qu'il était très mince. Question donc, pourquoi donnons-nous tous ces surnoms alors qu'il existe déjà des prénoms ou des noms?
Sans doute parce que c'est une marque d'affection.
Alors c'est vrai, c'est une marque d'affection, mais vous aurez remarqué qu'il y a aussi des surnoms pour les criminels, les prisonniers, les grands champions. Des surnoms donc qui sortent du cercle familial ou amical et qui passent aussi parfois à la postérité, pour Clémenceau, le tigre. Et puis il y a aussi tous les surnoms qui permettent de se moquer au travail, dans la cour de récré, etc. Donc le prénom, c'est bien le support d'une identité civile, mais il exprime surtout, on l'a dit, le choix des parents pour identifier leur enfant dans leur espace social. L'avantage du prénom, c'est qu'il permet donc d'identifier, mais son inconvénient, c'est que l'identification qu'il propose intervient à la naissance, avant même de savoir ce que deviendra celui qui va porter ce prénom. Alors, sans doute, les surnoms sont-ils là pour corriger un peu l'identification donnée à la naissance, en fait un peu comme pour l'ajuster à la réalité d'un caractère, ou bien de choix qui ont été faits, ou d'actes qui ont été posés.
Et chaque surnom est porteur d'une histoire.
Oui, et ça aussi, c'est important de le dire, parce que ça veut dire que notre identité personnelle, elle n'est pas figée, mais qu'elle se tisse comme un récit, dont le philosophe Paul Ricoeur dit que nous sommes à la fois comme les lecteurs et les auteurs. Notre identité, dit-il, elle est narrative parce que nous sommes ce tissu d'histoire que nous pouvons raconter de nous-mêmes. Et le surnom que l'on reçoit au hasard de la vie est toujours porteur d'une histoire qui devient un élément constitutif de notre identité. Là où le prénom identifie, le surnom personnalise. Là où le prénom dessine un contour, le surnom vient donner de la couleur. Alors chaque surnom a sa propre histoire, mais si nous nous donnons des surnoms, c'est bien le signe qu'il est impossible d'enfermer notre identité une bonne fois pour toutes, parce que au fond, c'est toujours aussi difficile de savoir qui nous sommes.
Merci pour cette jolie réflexion, Thibaut de Saint-Maurice. On s'intéresse aujourd'hui aux prénoms avec trois experts, Anne-Laure Cellier, Baptiste Coulmont et Claire Tabarly-Perrin.
Come a
Tame Impala interprété Borderline.
Non, Pierrot.
Grand bien vous fasse.
Faut entendre dire de m'appeler Ferdinand.
Ali Rébéi.
Oui, mais on ne peut pas dire mon ami Ferdinand.
France Inter.
On s'intéresse aujourd'hui aux prénoms avec trois experts, Anne-Laure Cellier, Baptiste Coulmont et Claire Tabarly-Perrin. Baptiste Coulmont, je rappelle que vous êtes sociologue. Pourquoi le prénom est-il un bien de mode? C'est la terminologie que vous utilisez dans votre ouvrage « Sociologie des prénoms ».
Mettons-nous au début du 19e siècle encore, c'était simple, le choix des prénoms, c'était le parrain, souvent le grand-père, qui choisissait le prénom de son filleul, souvent son petit-fils ou grand-mère et petite-fille. C'était possible parce que le prénom suivait l'héritage, en gros. On prenait, les parents s'arrangeaient pour trouver le personnage prestigieux pour que leur enfant porte son prénom. À partir du moment où le travail salarié s'est répandu, où les familles sont devenues plus petites, eh bien, ces règles de transmission ont perdu de leur poids. Et la seule qui a émergé, c'est le goût. On va prendre un prénom qu'on aime. Et bien, il y a un lien très fort entre le goût qu'on a et la mode, parce que ça donne naissance à des phénomènes cycliques, ça donne naissance à des phénomènes de distinction. Et donc, le prénom devient, au cours du 19e siècle et encore plus aujourd'hui, un marqueur de position sociale.
Claire Tabarly-Perrin, la mode influence la façon dont nous prénommons nos enfants ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a la mode, il y a le phénomène de cycle dont on parlait tout à l'heure. Et il y a aussi le phénomène inconscient. C'est-à-dire que si vous vous rapportez à la couleur, c'est typiquement, vous allez peindre le mur de votre cuisine en rose fuchsia en imaginant être extrêmement original. Vous êtes invité au café par une copine et vous apercevez qu'elle a un mur rose fuchsia. C'est exactement le même phénomène pour les prénoms.
Et comment expliquer qu'un prénom très à la mode se démode et se ringardise?
Imaginons, prenons, on peut prendre un prénom n'importe lequel, on va prendre Philippe. Les Philippes qui naissent dans les années 1910 sont des enfants de l'aristocratie. Les Philippes qui naissent en 1960, ce sont des enfants de paysans. Donc les aristocrates ont fini par abandonner Philippe parce que ça devenait un prénom vulgaire. D'où les phénomènes d'abandon qui démarrent en fait au sommet de l'échelle sociale et qui se définissent. Et donc, ces aristocrates ou la bourgeoisie parisienne finit par prendre un autre prénom qui est pris à son tour par différents milieux sociaux. Ça a été le phénomène pendant longtemps.
Claire Tabarly-Perrin.
Donc, il y a eu un moment, effectivement, où il n'y a plus cette verticalité de diffusion du prénom. C'est le fameux moment de des séries télévisées américaines qui ont donné les Kevin, Jordan, et ainsi
Brandon.
De suite. Assez difficile à vivre aujourd'hui.
Avec Pamela et Sue Ellen.
Il y a Jessica, il y a Cindy, et je pense qu'ils ne sont pas tous des kékés de télé-réalité et que les Jessica ne sont pas toutes des Lolita décervelées, quoi. Mais c'est pas facile à porter.
Kevin, c'est vrai que pour moi, ça me fait tout de suite penser à un prénom de beauf, clairement. Malheureusement, c'est quelque chose. C'est instinctif, c'est. Voilà.
Oui, c'est un peu cliché et. Ça me dérange d'avoir ce stéréotype du prénom Kevin, mais c'est vrai que je vois un petit peu la crête, le corps un peu approximatif, le tatouage de dragon.
Ça va être probablement le mec qui met le bordel dans la classe. C'est probablement le mec que la maîtresse va rappeler plusieurs fois et dire « Kevin, arrête de mettre le bordel ».
Un extrait du podcast d'Anouk Perry, La malédiction des Kevin. Anne-Laure Cellier, la dernière fois que vous êtes venue dans cette émission, nous avons évoqué trop brièvement une étude franco-israélienne à laquelle vous avez participé. Avons-nous la tête de notre prénom? Est-ce que la plupart des Kevin ont la tête de leur prénom?
Sans doute, même si on n'a pas regardé Kevin, parce que Kevin est très tagué socialement, donc dans
marqué.
Notre recherche, très très marqué, oui. Dans notre recherche, on a regardé d'autres prénoms, beaucoup plus courants, parce que ce dont Baptiste Coulmont parlait à l'instant, qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, en France, les prénoms allaient de l'aristocratie vers les classes populaires, puis perdaient de leur puissance, puis revenaient dans les classes aristocratiques, et il y avait cette passation à nouveau, sur le plan social. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, il y a des prénoms comme Kevin, qui naissent dans les classes populaires, et qui n'en sortiront jamais. Alors, on a certains stéréotypes. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, vous avez peut-être un stéréotype de Kevin parce que, voilà, c'est de la grosse cavalerie, tout le monde en parle et on en rigole. Mais en fait, on a un stéréotype pour tous les prénoms. C'est-à-dire que je croise 1, 2, 3 Ali. La façon dont ma pensée se structure et se développe fait que, immédiatement, avec très peu d'interaction, je vais commencer à constituer un prototype du Ali moyen, un stéréotype. Et ce qui est très rigolo dans notre recherche, c'est qu'on s'est rendu compte que Ali, le matin, quand il se prépare, mais il se prépare comme un Ali. Et donc, finalement, il finit par ressembler à un Ali physique.
Ça veut dire quoi ?
Alors, ça veut dire quoi ? Ressembler à un Ali, je ne sais pas en particulier. On l'a trouvé pour tous les prénoms. On l'a surtout trouvé en utilisant des études dans lesquelles on se rend compte que les gens sont capables de deviner votre prénom exact. Hein. On leur propose 3, 4, 5 prénoms parmi lesquels choisir, qui ont été donnés avec la même fréquence autour des années de votre naissance et qui appartiennent au même milieu social. Et les gens devinent que Thibaut est Thibaut, ils ne se plantent pas. D'accord ? Et largement au-delà du facteur chance. Donc il y a quelque chose chez Thibaut qui transpire le Thibaut. D'accord, il a une gueule de Thibaut. On peut rien faire. J'ai une gueule d'Anne-Laure. Enfin, il y a vraiment rien de grave à la chose. On le trouve avec tous les prénoms, surtout dans les études françaises. En France en particulier, notre prénom transpire largement sur notre visage.
Et est-ce que la sonorité d'un prénom crée des attentes sur les attributs de la personne qui le porte ? Que nous dit par exemple la psychologie cognitive sur cette question ?
Oui, alors ça fait presque 90 ans qu'on le sait, c'est ce qu'on appelle l'effet Booba-Kiki. C'est-à-dire que la sonorité de votre prénom, elle fait pressentir des formes. Hein. Quand je vous dis Booba, Barbara par exemple, on s'attend à quelqu'un de plus rond. Si je vous demande de dessiner votre stéréotype de la Barbara, soit vous allez faire un visage rond, ou alors elle va avoir les cheveux coiffés en chignon, en gros chignon sur la tête, etc. Donc on a tous comme ça une attente. Encore une fois, ce qui est drôle, c'est que Barbara, elle, le matin, on parlait d'imitation tout à l'heure, on imite inconsciemment hein, l'être humain, on apprend à vivre avec les autres en imitant largement. Eh bien, Barbara, le matin, a une bonne chance qu'elle se fasse un bon gros chignon plutôt qu'une tresse droite.
Le regard du sociologue Baptiste Coulmont sur cette étude ?
C'est assez éloigné des données que je manipule moi, donc j'ai
Claire Tabarly-Perrin.
Alors. C'est sûr que on personnifie son prénom, hein. On fait corps avec son prénom, ça c'est assez évident. Après, bon, moi je suis pas une scientifique, je vais plutôt prenons le terrain de l'étymologie. Paul, c'est petit, faible. Grâce à Dieu, tous les Pauls ne sont pas des crevettes malingres. Une Agnès, c'est chaste et pure. Elles sont pas toutes des saintes ni touches. Hein. Donc il y a quand même une distance. Et puis bon, ça passe pas les frontières non plus.
Alors attention, il ne s'agit pas d'étymologie. Merci Claire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent oulala. Alors l'autre jour, j'ai rencontré un Sylvain qui m'a dit alors Sylvain, ça veut dire de la forêt. Est-ce que ça veut dire je vais aller vivre là-bas ? Et non, pas du tout. Hein. Je veux dire, on peut avoir un Sylvain, deux Sylvains, trois Sylvains. Ça n'a rien à voir. On juxtapose, hein, comme le fait un ordinateur en intelligence artificielle. D'ailleurs, dans le livre, j'explique qu'on a utilisé l'intelligence artificielle sur 100 000 visages pour montrer qu'un ordinateur devine que vous appelez Thibaut. Il se plante pas. Et ça a à voir plus avec la caravane humaine dont on parlait tout à l'heure. Il y a une caravane des Philippes en 1910. Ils se ressemblent entre eux. Maintenant, les Philippes en 1980 ou les Philippes en 2020, peut-être en une autre tête. C'est-à-dire que le stéréotype social, il va changer. Mais ce qui est drôle, c'est que chaque individu va tendre vers le stéréotype de son prénom en se préparant.
Et Anne-Laure Sellier, je renvoie à votre ouvrage, Le pouvoir des prénoms. Bonjour Félicie.
Bonjour.
Vous allez bien ? D'où appelez-vous Félicie ?
J'appelle de Paris.
Bon, vous imaginez ce que j'ai en tête quand je dis votre prénom. Voilà.
Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier.
Non, voilà. La chanson, c'est ça qui vous poursuit, Félicie.
En fait, j'ai l'impression que les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand ils entendent mon prénom, mais qu'ils soient jeunes, ou qu'ils soient plus âgés, ou qu'ils soient des amis de mes parents, des gens au travail, ils ne peuvent pas s'empêcher. Ouais. Alors, ça m'a un peu porté préjudice quand j'étais plus jeune, parce que la chanson parle d'une prostituée, etc. Ouais. Donc, ce n'est pas hyper valorisant. Mais aujourd'hui, j'en rigole. De toute façon, je ne peux pas faire autrement.
Vous avez songé à changer de prénom, Félicie ?
Oui, j'ai songé quand j'étais plus jeune aussi, un petit peu comme Jordan et Sanette qu'on a entendu tout au début de l'émission. Sauf que mes parents m'en avaient pas mis d'autres. Et donc, c'est plus compliqué parce que sur ma carte d'identité, j'ai que celui-ci.
Vous en voulez à vos parents d'avoir choisi ce prénom ?
Aujourd'hui, non.
Mais avant,
parce
oui.
Que, non. Oui, avant, oui. C'était en plus un peu daté, il y en avait moins, voilà.
Et on a un message sur notre page Facebook d'Aline qui nous dit « Je m'appelle Aline et je vous laisse imaginer combien de fois on a crié pour que je revienne. Je m'y suis faite, la chanson est jolie. » Merci beaucoup Félicie de nous avoir appelé. Claire Tabarly-Perrin, quels sont les prénoms qui sont en forte progression, qui dans les années à venir vont connaître un très grand succès? À ma grande surprise, j'ai vu dans votre officiel des prénoms que mon prénom y figurait. Mais quels sont les prénoms qui ont... voilà.
Alors, ce sont les prénoms. Donc, si on prend les tendances, chez les filles, c'est les prénoms qui finissent par A et qui sont courts. Et chez les garçons, c'est les prénoms courts et l'Ancien Testament. Mais il y a plusieurs étages à la fusée. Le deuxième étage, c'est ces fameux prénoms multiculturels, hein, dont on a parlé tout à l'heure avec des résonances dans les religions monothéistes ou qui peuvent se prononcer dans plusieurs langues pour les filles. Donc là aussi, c'est intéressant, cette distinction entre les filles et les garçons. Les garçons, c'est l'Ancien Testament, donc c'est l'ancrage, les ancêtres. Et les filles, c'est... ils peuvent être prononcé dans plusieurs langues. Hein. Donc, je ne veux pas faire du sexisme de base, mais c'est intéressant la façon dont ça se distribue. Puis après, troisième étage de la fusée, c'est les prénoms internationaux. Les prénoms qui voyagent. Hein. Les prénoms, ils changent de sexe, on a vu tout à l'heure, mais ils voyagent aussi. Il y a des prénoms qui s'importent, il y a des prénoms qui s'exportent. C'est Louis hein, qu'on a exporté. C'est un prénom pas très Brexit. On l'a envoyé en Angleterre.
Et oui, puis, c'est le prénom du dernier enfant de
William
et de Kate.
Voilà. Et puis, il y a les prénoms qu'on importe, c'est les Liam, Nolan, et ainsi de suite. Donc, le prénom international, c'est Sophie, Olivia, les prénoms en IA qui vont bien voyager.
Il y a le cas de Ryan aussi, qui a une consonance irlandaise, anglo-saxonne, et qui est également donnée dans les milieux d'origine maghrébine.
Absolument. Vous avez chez les filles, si on reprend le cas chez les filles, vous avez le cas de Lina aussi, hein, le cas de Sophia, le cas de Nadia, la même génération que Ryan, c'était Nadia.
Alors c'est lié.
Non.
Vous me regardiez, j'ai l'impression que vous alliez dire quelque chose. Guillemette Odissino.
Est-ce qu'un jour, les doubles prénoms, les prénoms avec
composés
vont revenir ou pas? Parce que souvent on dit, oh, de toute façon, tous les prénoms reviennent, même les prénoms les plus fous de nos grands-mères. Mais il y a pratiquement un truc sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que les prénoms composés reviendront pas. Est-ce qu'ils reviendront?
Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Alors, en tout cas, si on regarde les statistiques, c'est vrai que dans les années 50, il y avait 25 prénoms composés dans les 100 premiers prénoms de mémoire. Aujourd'hui, ils sont même pas dans les top 200, à l'exception de Lily Rose.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui.
Influence du cinéma.
Absolument.
Et est-ce que les prénoms rétro du début du XXe siècle, comme Anatole, Marius, Gaston, Jules, Victoire, Louise, Mathilde, sont promis encore un bel avenir?
Ah oui, tout à fait. Phénomène de cycle, hein. Gaston, Ida, tous ces prénoms qui sont en fait faciles à appréhender, faciles à penser, vont probablement revenir.
Un mot de conclusion, tiens, Guillemette.
Non, mais moi, tout à l'heure, vous avez dit les Agnès, elles sont chastes, et ceci, les machins, ils sont. Est-ce qu'on peut me dire d'où ça sort les descriptifs de nos prénoms? Enfin, moi, le mien, c'est sur un bol sur mille, hein, de temps en temps, je tombe, ou sur les ronds de serviettes, ou sur les cartes postales qui se vendent. Ça veut dire quoi? Ah, bah, les Mathilde aiment le bleu. Les Jules aiment le rouge. Mais d'où ça sort?
Mais c'est un stéréotype.
Alors, mais d'où ça sort? Qui écrit ça?
Mais non, mais c'est la caravane humaine, hein, c'est tout à fait tribal, ça j'en parle largement dans le livre, effectivement. Moi j'ai une fille qui s'appelle Charlotte, j'ai une autre maman d'une Charlotte qui est venue me voir un matin qui m'a dit nos filles, c'est vraiment des Charlottes, en me regardant d'un air entendu. Et je n'ai trouvé pour unique réponse correcte que de la regarder avec le même engouement en disant ouais, c'est des Charlottes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais clairement ce sont des
Charlottes. Et la couleur préférée des Charlottes, on la connaît.
On ne sait pas.
Merci à tous d'être venus. Vous pourrez retrouver la bibliographie de nos invités sur l'appli France Inter ou la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.